Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abbas Ouédraogo.
Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire, le Niger capture deux chefs terroristes dont les têtes étaient mises à prix au Burkina. Cette capture est le fruit d'une opération conjointe des armées nigériennes et françaises. Circulation routière, une plateforme en ligne pour payer les contraventions. La plateforme e-contravention a été lancée ce mardi 11 juillet 2023 par le ministre délégué en charge de la sécurité, le commissaire principal de police, Mamadou Sana. La 8e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac a été lancée ce mardi 11 juillet à Ouagadougou, au Siaou. Des professionnels de l'enseignement supérieur vont s'entretenir au cours de cette semaine avec les futurs étudiants et leurs parents sur les possibilités qui s'offrent à eux en termes de choix de filière. Et puis la levée de la suspension du Mali des instances de l'UMOA, un non-événement pour Bamako selon Mohamed Danyonko, journaliste malien indépendant, vous entendrez ses explications. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal sur Radio Oméga. Débutons donc ce journal par la lutte contre le terrorisme. Le Niger a mis la main sur deux importants chefs terroristes dont les têtes avaient été mises à prix par Ouagadougou. Selon le journal Jeune Afrique, ces cadres de l'État islamique au Grand Sahara ont été arrêtés début juillet lors d'une opération conjointe des armées nigériennes et françaises dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Les détails avec Lamine Traoré.
Les deux hommes, surnommés Zaïd et Loukouman, étaient activement recherchés. Le journal indique que début juillet, une opération conjointe entre soldats nigériens et français menée dans la région du Tillabéri dans l'ouest du Niger a permis la capture de ces deux figures de l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. Il s'agit de Abou Mariam, dit Zaïd, et Sita Ousseini, dit Loukouman, qui sont deux chefs terroristes membres de l'EGS. Très activement recherché, a affirmé une source sécuritaire nigérienne haut placée et rapportée par JIA. Selon le magazine, Abou Mariam a été capturé le 6 juillet dans le secteur de Yatakala et Sita Ousseini le 7 juillet près de Tera, deux localités proches de la frontière avec le Burkina Faso. Ces deux chefs faisaient partie d'un groupe de terroristes activement recherchés par Ouagadougou pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes. Et justement, la tête de Zaïd avait été mise à prix à 150 millions de francs CFA et celle de Loukman à 175 millions de francs CFA. L'avis de recherche précisait que Sita Ousseini était nigérien. Le journal Jeune Afrique, citant des autorités militaires nigériennes, révèle que les soldats nigériens et français mènent depuis plusieurs mois des opérations conjointes dans l'ouest du Niger, principalement dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
L'armée burkinabé a de son côté neutralisé des leaders terroristes dans le Sahel. C'est ce que nous rapportent nos confrères de l'agence d'information du Burkina. L'armée burkinabé a neutralisé une trentaine de leaders terroristes en conclave dans la zone de Seitenga, région du Sahel, et détruit des stocks de carburant et de munitions. Selon l'AIB, la trentaine de ces chefs terroristes étaient venus du Niger pour une réunion. Et un mot d'éducation dans ce journal, ils sont un peu plus de 50 000 à avoir réussi à l'examen du baccalauréat, session 2023. Si pour certains, le plus difficile semble franchi, d'autres par contre sont confrontés à un problème de choix des filières, un choix déterminant pour leur avenir. La direction générale du Conseil à l'orientation universitaire et des bourses assiste depuis maintenant 8 ans les futurs étudiants dans ce sens à travers la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac. La 8e édition est lancée ce mardi 11 juillet à Ouagadougou-Siao. Les professionnels de l'enseignement supérieur vont s'entretenir au cours de cette semaine avec les futurs étudiants et leurs parents sur les possibilités qui s'offrent à eux. Plus d'explications dans cet élément de Solomon Nikiema et Abdulaziz Zoulabou.
Après 9 mois de dur labeur, ils ont enfin le premier diplôme universitaire en main. Ce cadre était attendu par bon nombre qui étaient dans une situation d'incertitude quant au choix à faire. Sandrine Kabouré, nouvelle bachelière.
Je voulais des renseignements concernant les universités et les filières aussi, pour ne pas après faire un choix et je vais regretter après. Bon, après cette conférence, je suis un peu située, si je peux dire ça.
Contrairement à Sandrine, Isaac Sayaogo, lui, est toujours à la poursuite de l'information et espère également trouver son compte au terme de sa visite.
Bon, franchement, avoir une idée, non, mais je compte sur cette semaine pour essayer de voir ce que je fais après.
Certains bacheliers sont venus accompagnés de leurs parents au regard de l'importance que le choix d'une filière revêt pour l'avenir de leur progéniture. Barbara Naba est mère d'un bachelier.
On est venu pour prendre des informations sur les différentes filières et avoir des conseils aussi. Ici, il peut y avoir des entretiens, pouvoir être guidé sur le choix. Parce que c'est très important.
Ne surtout pas imposer son choix en tant que parent à un enfant, estime Tô Mariam, une autre mère d'une future étudiante.
Je n'ai pas fait la force à un enfant. Le choix doit venir d'elle-même. Voilà. On peut, si on impose, elle ne veut pas, elle a le choix. Voilà.
Cette 8e édition qui se tient du 10 au 15 juillet a pour thème orientation universitaire et financement des études supérieures en situation de défi sécuritaire au Burkina. Enjeux et perspectives. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, par ailleurs président de la cérémonie, a saisi l'occasion pour annoncer des réformes en cours. Adima Tiombiano.
Nous sommes en train de créer les conditions pour que certaines filières, par exemple les filières techniques, ne soient pas obligées d'aller faire des filières qui ne sont pas souhaitées et que ces bacheliers puissent s'orienter vers des centres de formation professionnelle, bien sûr avec les conditions que nous allons définir, mais aussi que nous pouvons accompagner avec les différentes œuvres sociales.
À cette édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation, 106 structures, parmi lesquelles des universités publiques et privées, sont représentées et plus de 11 000 visiteurs sont attendus.
Parlons sécurité routière à présent. E-Contravention, une plateforme en ligne pour faciliter le paiement des contraventions par les usagers de la route. Cette plateforme va aussi permettre de réduire la corruption au Burkina Faso. Le ministre délégué en charge de la sécurité, le commissaire principal, Mamadou Sana, et son collègue de la transition digitale, Aminata Zerbo, ont procédé au lancement de la plateforme e-contravention ce mardi 11 juillet 2023 au cours d'une conférence de presse. Le compte-rendu est signé Gisèle Tirogo avec la voix de Chalda.
Désormais, payez vos contraventions en ligne grâce à la plateforme e-contravention. La plateforme a été mise en place pour faciliter les difficultés rencontrées par les usagers en cas d'infraction contraventionnelle. Selon le ministre délégué de la Sécurité, le commissaire principal Mahamoudou Sana, e-contravention est un moyen efficace de lutte contre la corruption et les pertes de capitaux de l'État.
Vous savez qu'en matière de contravention routière, généralement, une partie, en tout cas des contrevenants, parfois passe par la voie de la corruption parce qu'ils ne veulent pas que leur engin soit transporté dans le commissariat ou bien qu'ils ne veulent pas perdre du temps à venir notre jour à trouver un moyen de transport pour passer au commissariat et payer la contravention. Donc nous pensons que ça va beaucoup atténuer parce que parfois les gens même veulent payer la contravention sur place, mais le dispositif ne permettait pas cela. Donc si déjà cette bonne partie des contrevenants acceptent payer sur place, nous pensons qu'une partie déjà de la corruption va prendre fin.
Cette plateforme réfléchie et conçue par des Burkinabés s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de moderniser et renforcer l'intégrité de l'administration publique. L'innovation majeure de la plateforme e-contravention est le paiement par Orange Money. Le commissaire principal de police, Mohamed Bayekoro, nous explique le processus de paiement.
Dès qu'un usager commet une contravention, l'agent qui a constaté cette infraction-là, voilà, pourra enregistrer la contravention. Une fois la contravention enregistrée, il y a une notification qui est envoyée par SMS au contrevenant. Voilà. Et dans ce code-là, il a le code contravention, le montant de la contravention et la syntaxe de paiement. Et dès que l'usager a quelque chose dans son compte, il pourra facilement payer la contravention en composant la syntaxe sur son téléphone. Une fois le paiement effectué, voilà, il recevra un SMS de confirmation. Et le téléphone également de l'agent sera mis à jour. Et la contravention de l'usager va passer en attente de paiement à payer. Et après ça, il pourra vaquer librement à ses occupations.
La plateforme de gestion des contraventions est à sa phase pilote. Pour le moment, elle est mise en application dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'ancien mode de paiement reste d'actualité jusqu'à ce que l'utilisation de la plateforme e-contravention soit effective sur toute l'étendue du territoire national.
Comme annoncé en titre, la levée de la suspension du Mali des instances de l'UMOA semble ne pas provoquer de réaction à Bamako. Selon Mohamed Danyoko, journaliste indépendant, la décision n'est quasiment pas commentée par l'opinion malienne, bien qu'elle était attendue par de nombreux Maliens. Écoutons Mohamed Danyoko.
Lors de sa session extraordinaire, l'UMOA a décidé de lever les sanctions qui frappaient encore les autorités maliennes. On le sait, ces sanctions avaient été prises parce qu'il y avait une junte militaire au pouvoir. Et sauf qu'aujourd'hui, cette levée de sanctions ne fait pratiquement ni chaud ni froid au Mali, parce que quand on regarde un peu le landerneau politique au niveau des autorités et même de la société civile, aucune déclaration de taille n'est venue pour saluer ou même dire un mot par rapport à cette levée de sanctions. C'est comme si au Mali, on vivait tranquillement et à force, parce que cette décision quand même de sanctionner le Mali a été prise depuis le 9 janvier 2022. Donc du 9 janvier 2022 au mois de juillet 2023, c'est comme si les gens se sont adaptés à cette situation et vivaient cette situation comme si de rien n'était. Donc c'est pratiquement comme un non-événement au Mali, cette levée des sanctions. Et quand on sait que la CEDEAO, elle, avait levé ses sanctions depuis le mois de juillet 2022. Et donc aujourd'hui, c'est qu'on peut dire clairement par rapport à cette levée de sanctions de l'UMOA contre le Mali, ne fait pas grand bruit, pas plus que ça.
Mohamed Danyoko, journaliste malien indépendant, qui a été joué au téléphone par Abdoul Fattah Tiamtouré. Parlant toujours du Mali, les dirigeants de l'UMOA n'ont pas donné plus de détails sur la levée de la suspension du Mali. Ils ont toutefois salué la résilience des économies de la zone, dont le taux de croissance économique est prévu entre 6 et 7% en 2023 dans la plupart des pays membres de l'UMOA. Mais comment se comporte l'économie malienne en 2022 et 2023? Est-ce que les sanctions prises à l'encontre du pays suite au coup d'État ont eu plus d'effet sur l'économie malienne? Réponse et explication avec Pousseni Bakouan, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Burkina Faso, spécialiste des questions macroéconomiques. Il a été joint au téléphone par Brigitte Yoda.
Les échanges commerciaux du Mali en 2022 ont connu une augmentation, allant donc de 4,6%. En 2023, les échanges commerciaux du Mali au premier trimestre ont diminué de 11%. Mais la diminution des échanges commerciaux du dernier trimestre de 2023 n'a pas d'impact global sur l'ensemble des exportations du Mali en 2023, selon les estimations de la CNESET. Sur ce point de la croissance économique, on peut dire effectivement que les sanctions ont affecté l'augmentation de la richesse du Mali. Mais est-ce que c'est lié seulement aux sanctions? Je ne pense pas. Je pense que la crise peut avoir plus d'effets que les sanctions. Parce que les sanctions, ça a été difficile pour les pays même d'appliquer les sanctions. On savait que le Burkina Faso n'a jamais appliqué les sanctions contre le Mali, ni la Guinée. Donc, les quelques pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont voulu appliquer, vous avez vu comment ça s'est passé au Sénégal, où les gens sont sortis même manifester pour demander à Macky Sall d'ouvrir les frontières. Et puis, ce que vous devrez noter également, c'est que nos économies sont informelles. Donc, ça fait qu'il est évident que la croissance économique du Mali a chuté. En 2022, il serait de 1,8%, le dernier donc de l'UMOA. Mais en 2023, le Mali connaîtra une croissance très élevée, 4%. Il est toujours le dernier de l'UMOA, tout comme le Burkina Faso. Mais en Afrique, le Mali se classe, en tout cas devant plus de 20 pays en 2023.
Le pays de Vladimir Poutine offre environ 1,5 milliard de francs CFA au Burkina Faso. Ce soutien de la Russie devrait contribuer à l'aide humanitaire du pays à travers le programme alimentaire mondial PAM. L'annonce a été faite ce mardi 11 juillet à Ouagadougou à l'occasion d'une audience entre la chef de la diplomatie burkinabé Olivia Rwamba et l'ambassadeur russe Alexei Saltykov. Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux diplomates ont échangé sur des sujets d'actualité, le soutien humanitaire des autorités russes au Burkina, les préparatifs du sommet Russie-Afrique et le renforcement des différents axes de la coopération, notamment la sécurité et la défense. À propos du sommet Russie-Afrique prévu du 26 au 29 juillet prochain, Olivia Rwamba a assuré à l'ambassadeur de la participation du Burkina Faso. Le Burkina Faso prendra part donc au deuxième sommet Russie-Afrique pour défendre ses intérêts en lien avec l'amélioration des conditions de vie de sa population, indique-t-elle, tout en précisant que Moscou est un partenaire stratégique de Ouagadougou. Et puis la Lituanie accueille ce mardi 11 juillet les chefs d'État et de gouvernement des 31 pays de l'OTAN et leurs partenaires pour 2 jours, un sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. qui vise à envoyer un message de soutien une fois de plus à l'Ukraine qui poursuit sa contre-offensive difficile face à Moscou. Le président ukrainien attend des engagements pour une future adhésion à l'Alliance. Hier, c'est l'intégration de la Suède qui a connu une grande avancée. Le président turc a finalement accepté de lever son veto à cette candidature après plus d'un an de blocage. Le premier ministre suédois a estimé que c'était un bon jour pour son pays et un très grand pas. Le président américain et Berlin ont salué cet accord donné par Recep Tayyip Erdogan.
La revue de presse.
Un tour d'horizon de la presse révèle que le tout nouveau président en exercice de la CEDEAO, par ailleurs président du Nigeria, Bola Tinubu, fait de la lutte contre les changements anticonstitutionnels en Afrique son cheval de bataille. Et les confrères, notamment l'Express du Faso et le quotidien, l'invitent à instaurer une bonne gouvernance au sein de ses pairs pour ne pas faire le lit au coup d'État. C'est un autre sujet développé aujourd'hui à travers les quotidiens. Les détails avec Asma Oudaou.
Coup d'État ou coup d'arrêt. Même les militaires ne les aiment pas, écrit l'Express du Faso. Le tout nouveau président en exercice de la CEDEAO, par ailleurs président du Nigeria, Bola Tinubu, fait de la lutte contre les coups d'État militaires la priorité de son mandat à la tête de l'institution ouest-africaine. Et l'Express du Faso souligne que même ceux qui les perpètrent ne les aiment pas forcément. En effet, s'il y a des gens qui parfois applaudissent les coups d'État, ce n'est pas qu'ils les aiment forcément, mais parce qu'ils constituent un espoir à un moment donné. Et que si le tout nouveau président en exercice de la CEDEAO réussit à fixer des règles communautaires de bonne gouvernance que ses pairs respectent scrupuleusement, il gagnera son combat. Le quotidien d'insister sur l'exigence du respect de l'aide de transition et flemmard sur la lutte contre le terrorisme. Pour lui, la démocratie, c'est bien. Mais elle ne prospère que dans des terreaux fertiles. La CEDEAO le sait. Ce qui n'est pas le cas pour le moment au Mali et au Burkina Faso. De son côté, le pays se demande. La CEDEAO pourra-t-elle tenir le pari? Celui de la lutte contre les changements anticonstitutionnels en Afrique de l'Ouest. À propos, toujours, aujourd'hui au Faso évoque, Bola s'en va en guerre contre les militaires putschistes qui des civils du troisième mandat. Et l'observateur Palga de dire, force militaire CEDEAO, une chose est de la créer, une autre est de la faire vivre.
C'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté, assisté de Pac Mogda Bernadette, le Facebook Live assuré par Charles Da. Merci de rester fidèle au programme de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.